Et le journal de France Inter, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est dans ce journal plongé dans les coulisses de la primaire populaire. La plupart des candidats de gauche n'en veulent pas, mais des dizaines de milliers de militants ne désespèrent pas. Ils préparent en ce moment une consultation d'un nouveau genre. Reportage à suivre. Une grève comme on n'en a pas vu depuis longtemps à l'école. Elle s'annonce massive demain contre la gestion de la vague Omicron. La flambée épidémique perturbe aussi d'autres secteurs. Dans le BTP, vous l'entendrez, des chantiers sont paralysés. Au sommaire aussi, Mohamed Abrini, qui ne renie rien de Daesh au procès du 13 novembre. Et l'interminable feuilleton Djokovic en Australie. De nouvelles révélations embarrassent le tennisman.
Et au micro de Léa Salamé, dans 20 minutes, à 7h50, c'est aujourd'hui la présidente de France Télévisions et présidente de l'Union Européenne de Radio-Télévision, Delphine Ernotte-Quincy.
France Inter.
À 3 mois de la présidentielle, Alexis, la semaine est décisive à gauche.
Anne Hidalgo doit dévoiler son projet demain sur Inter. Ça bouge aussi du côté d'Arnaud Montebourg. Va-t-il se rallier à Christiane Taubira? Des tractations sont en cours avant une possible candidature de l'ex-garde des Sceaux ce week-end. Christiane Taubira, la seule pour l'instant à s'engager vraiment dans la primaire populaire. Ce mouvement citoyen qui ne désespère pas de voir émerger une candidature unique à gauche. Un vote électronique est prévu fin janvier pour classer les différents prétendants. Mais à quoi ça va vraiment ressembler? Antoine Gignot a rencontré les organisateurs. Reportage.
Sur les murs, en parpaing, aucune affiche, aucune décoration. Mais il y a partout des écrans, des ordinateurs et comme une ambiance de tour de contrôle.
Amaury.
Bonjour à tous.
Oui, bonjour, c'est Thierry de Annecy.
Brigitte, comment ça va, Brigitte?
Moi, je suis Pablo de Pont-à-Mousson.
Oui, bonjour, c'est Guy de Versailles. Ça va bien, on est prêt pour samedi.
Entre les actions de rue et le démarchage téléphonique, au total, ce sont plus de 70 groupes de militants locaux que la primaire populaire active, motive.
C'est maintenant que ça se joue, en effet. Donc lâchez rien.
Car pour l'instant, sur les 300 000 sympathisants inscrits sur le site, 111 000 seulement se disent prêts à participer au vote. Mathilde Himmer, la porte-parole du mouvement.
Nous, on attend d'avoir au moins la même chose que les Républicains, qui étaient 150 000 inscrits, 130 000 votants effectivement. Plus on sera nombreux, plus la dynamique de ce vote sera forte.
Et pour convaincre, la primaire populaire cherche à rassurer sur son impartialité, sur son système de scrutin au jugement majoritaire qui permet de classer les candidats et sur NeoVote, la plateforme de vote en ligne, explique Victor, chargé de la sécurisation.
Ce prestataire, NeoVote, est le même que celui des écolos, le même que celui des LR, et donc on a les mêmes mécanismes de sécurité. Quand on s'inscrit, eh bien on vérifie son identité par un contrôle mail, un contrôle SMS, on a aussi le contrôle de la carte bleue comme mécanisme anti-fraude.
Et pour mieux convaincre, les organisateurs le soulignent à chaque conversation. Malgré l'empreinte de carte, le vote sera totalement gratuit.
Reportage Antoine Gignot. L'idée d'une primaire rejetée de nouveau catégoriquement ce matin par Jean-Luc Mélenchon dans Libération. Pour le candidat insoumis, la confusion de l'Union bloquerait la mobilisation pour la présidentielle.
Très contagieux mais moins grave, 7h33. Omicron est-il le tournant de la pandémie?
Plus d'un Européen sur deux pourrait être infecté d'ici 2 mois, mais ce variant pourrait bien être celui qui nous fera progressivement sortir de la pandémie pour aller vers une maladie endémique avec laquelle on peut vivre. C'est ce que veut croire ce matin l'Agence européenne du médicament. En attendant, la crise est aiguë et très visible à l'école. Le protocole est allégé, pas la colère des enseignants. Dans le premier degré, les 3/4 d'entre eux seront grévistes demain, selon leur principal syndicat. Depuis la rentrée de janvier, Omicron vide l'école. Classe et les salles des profs. En Guadeloupe, la situation est si critique qu'on recrute des volontaires à tour de bras pour remplacer les enseignants malades. Yann Gallic.
17 écoles et plus de 300 classes sont actuellement fermées dans l'archipel à cause du Covid. L'administration a donc décidé de recruter des volontaires en CDD pour remplacer les enseignants absents. Les candidats peuvent déposer leur dossier sur une plateforme dédiée, explique Christine Gangloff-Ziegler, la rectrice de l'Académie de Guadeloupe.
Nous avons fait un appel très ouvert, effectivement, à la fois à nos jeunes retraités qui sont partis il y a encore peu de temps. Et à côté de ça, des étudiants ou des personnes qui actuellement n'ont pas d'activité, ayant au moins un bac plus 2 pour venir en soutien, évidemment, avec un contrôle sur le plan pédagogique, parce qu'il y a la garantie de qualité qui est importante.
L'objectif étant d'éviter au maximum les fermetures de classes dans une région où l'année scolaire a déjà été fortement perturbée par l'épidémie et le mouvement de contestation sociale contre l'obligation vaccinale.
on est particulièrement attentif à préserver au maximum le nombre de jours de classe et en présentiel pour les enfants. Nous avons des zones blanches, des enfants qui sont plus en difficulté aussi parce que les parents ne peuvent pas les aider. Et donc, nous sommes convaincus de l'importance du présentiel.
Plus de 200 volontaires ont déjà répondu à l'appel du rectorat pour venir en renfort dans les écoles de Guadeloupe.
L'école complètement désorganisée par Omicron, mais l'économie française, elle, résiste plutôt bien pour l'instant, selon la Banque de France. Elle prévoit même que l'activité restera stable en janvier. Pour autant, certains secteurs sont bien ralentis, là aussi, par la multiplication des absences de salariés contaminés. Dans le bâtiment, c'est très frustrant, les carnets de commandes sont pleins, mais de nombreux chantiers sont reportés, Claire Chaudière.
3 salariés sur 11 malades en même temps et une partie non négligeable de l'équipe restante non vaccinée momentanément interdite de chantier. L'entreprise de David Morales, plaquiste en Haute-Garonne, a été quasiment à l'arrêt il y a quelques jours.
Ça a complètement déstabilisé l'entreprise et on a pris du retard. Dans le bâtiment, c'est ça, il y a toujours un petit truc qu'on n'a pas prévu. Mais là, c'est tout le temps, ça serait bien que ça arrête tout ça.
Car sur les chantiers, les artisans sont parfois dépendants d'autres corps de métier, eux aussi malades. À cela s'ajoutent les enfants à garder pour cause de classe fermée et les travaux en intérieur empêchés par le télétravail à nouveau généralisé. Jean-Christophe Repon préside la CAPEB, le syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment. La pagaille gagne chaque jour du terrain, dit-il.
C'est une situation qui s'accélère et on a une désorganisation de l'entreprise artisanale. Tous les matins, vous ne savez jamais comment la journée va se passer, savoir qui est là, qui ne sera pas là, qui sera qu'à contact. On a des chefs d'entreprise qui sont pas loin du burn-out, de l'énervement, de l'épuisement.
Un épuisement et une situation de tension d'autant plus importante que le secteur doit aussi composer depuis des mois avec des pénuries de matériaux et la flambée des prix. Seule bonne nouvelle, les clients, assurent de nombreux professionnels, restent malgré tout relativement compréhensifs et les carnets de commandes ne désemplissent pas.
Un reportage signé Claire Chaudière. Puis à l'étranger, le Québec hausse le ton contre les non-vaccinés. La province canadienne s'apprête à leur imposer une taxe spécifique, une contribution santé d'un montant significatif. On y revient dans le journal de 8h. Au procès des attentats du 13 novembre, on croise les doigts pour que le Covid ne perturbe pas de nouveau l'audience. Salah Abdeslam, désormais guérie, elle a pu reprendre normalement hier avec l'audition des accusés sur les faits. Mohamed Abrini, pour commencer, celui qu'on a surnommé l'homme au chapeau et qui persiste et signe dans sa défense de Daesh et de son idéologie, Charlotte Piret.
Mohamed Abrini n'en fait pas mystère. Si j'étais un homme libre, j'irais vivre dans un pays où l'on applique la charia. L'Arabie saoudite semble même avoir sa préférence. Quant au djihad, cela fait partie de l'islam, déclare-t-il, et d'insister, c'est un devoir pour tout musulman d'aller faire le djihad et défendre les opprimés. Mais cet homme de 34 ans, dont le petit frère est mort en combattant dans les rangs de Daesh et qui y passe lui-même une quinzaine de jours à l'été 2015, cet accusé-là ne veut pas entendre parler d'islam radical. Pour vous, c'est radical, explique-t-il poliment à la cour, mais pour moi, c'est l'islam normal. Cet islam qu'il dit avoir appris en autodidacte et au nom duquel il justifie les attentats comme une réponse à la politique étrangère de la France en Syrie. C'est attentat contre bombardement. La guerre, c'est comme ça. Et si Mohamed Abrini évoque sa tristesse face aux victimes innocentes, pas question de douter pour autant. Moi, je ne remets rien en question. C'est la loi divine de l'État islamique. Il accepte tout, dit-il encore, comme vous acceptez toute l'histoire de France avec ses pages sombres et ses pages lumineuses.
Il était secrétaire d'État sous François Hollande. Kader Arif est jugé à partir d'aujourd'hui par la Cour de justice de la République, notamment pour prise illégale d'intérêts. Les faits remontent à 2014, quand le socialiste était chargé des anciens combattants. En cause, un marché public attribué alors à une société gérée par son frère. Elle est chargée des personnes handicapées dans le gouvernement actuel. Sophie Cluzel, invitée d'Inter ce matin à 8h20, à l'occasion de la parution de son livre « La force des différents ». La secrétaire d'État a fait de la scolarisation des enfants handicapés l'une de ses priorités, en vantant son bilan, 100 000 élèves de plus à l'école depuis le début du quinquennat. Pourtant, certains restent encore sur le carreau, faute d'AESH, leurs accompagnants au quotidien, comme cette famille qu'a rencontrée Anne Orenstein.
Alors pour tout commencer, je m'appelle Léo, je suis en CE2B et j'ai 9 ans.
Petit bonhomme blond et vif, Léo est atteint d'un syndrome autistique léger, un syndrome qui l'empêche d'apprendre comme les autres enfants. C'est pour pouvoir quand même rester à leur niveau que 21 heures d'accompagnement par un AESH ont été allouées, sauf que...
On est le 11 janvier, il n'y a toujours personne pour mon fils. Il n'a pas eu une heure.
Philippe Faure, pourtant, a pris le sujet à bras-le-corps. Il sort les dizaines de mails envoyés.
Tout le monde se refile la patate chaude. Et puis ces gens-là, c'est des gens qu'on voit jamais. Personne ne répond au téléphone. Rien. Donc, c'est absolument décourageant.
Et pourtant, il continue à tenter de soulever les montagnes pour ne plus entendre certaines phrases de Léo.
Il y a un mois, il m'a dit, mais papa, je suis pas intelligent. Il m'a dit ça. Je suis pas intelligent parce que j'arrive pas à l'école. C'est horrible. C'est inaudible parce que c'est pas vrai. Moi, je suis persuadé que mon fils, avec l'aide d'une AESH, pourrait vraiment s'en sortir. Pour preuve, il a appris à lire. C'était pas gagné.
Alors forcément, c'est devenu un combat quotidien.
Faut se battre. Tous les ans, faut refaire ce combat. C'est en toile de fond tout le temps. Et vous savez que chaque jour qui passe, c'est un jour de perdu.
En attendant cette aide qui ne vient pas, Léo voit chaque semaine orthophoniste et psychomotricienne pour au moins ne pas régresser.
Moscou y voit un moment de vérité dans sa relation avec les Occidentaux, deux jours après les pourparlers de Genève. Un conseil autant Russie sur l'Ukraine est prévu aujourd'hui à Bruxelles. C'est une première depuis 2 ans et demi.
Il est 7h40, Novak Djokovic s'englue dans les polémiques.
Toujours pas assuré de jouer l'Open d'Australie, le numéro 1 mondial du tennis tente de s'expliquer sur les zones d'ombre nombreuses entourant sa contamination au Covid et son arrivée à Melbourne. Bonjour Guillaume Badin.
Bonjour Alexis.
Et ce matin sur les réseaux sociaux, le Serbe revient notamment sur un formulaire rempli lors de l'atterrissage en Australie.
Ce document que tout voyageur qui débarque en Australie est tenu de remplir, on vous demande si vous avez voyagé durant les 14 jours précédant votre arrivée, si vous avez été testé positif, ce qui entraîne un isolement obligatoire. Eh bien, Novak Djokovic explique dans un communiqué posté sur son compte Instagram que son agent a mal rempli ce document en sortant de l'avion. Mon agent a coché accidentellement la mauvaise case du formulaire. Il s'agit d'une erreur humaine qui n'était certainement pas délibérée. Nous vivons des temps difficiles, dit Djoko. Une pandémie mondiale et parfois des erreurs peuvent se produire, sauf que cette erreur s'ajoute à des excuses. Celle d'avoir accordé une interview en face à face, une séance photo sans masque pour le journal L'Équipe à l'occasion du Trophée des Champions le 18 décembre, 2 jours après un test positif. Un test en date du 16 décembre qui serait un faux. Le QR code aurait été falsifié selon l'enquête du très sérieux journal allemand Der Spiegel. De nouveaux éléments, des aveux, des excuses qui transforment cette affaire en véritable psychodrame.
Et dans cette opération déminage, Djoko peut toujours compter sur sa famille. Ce matin, sa mère, Dijana, était à la télé australienne pour jurer que non, son fils ne savait pas qu'il était positif lorsqu'il a participé à des événements sans masque mi-décembre.
Merci Alexis Morel. L'édito politique Thomas Legrand à suivre.